Chapitre 23, Cour d'assises de la Seine, audience du 27 avril, affaire Saranti. Le lecteur, en apprenant de la bouche même de Salvatore que celui-ci se rendait au palais de justice pour y assister au dernier débat de l'affaire Saranti, a dû comprendre qu'il ne fallait pas moins que la nécessité absolue où nous étions de suivre M. de Marande dans la chambre de sa femme, pour que nous ne le conduisions pas à l'instant même dans cette grande et terrible salle du palais de justice où le crime vient chercher son châtiment et, malheureusement, parfois aussi, par une fatale erreur, l'innocence, sa condamnation. Trois statues devraient être placées aux trois angles de cette grande salle dans l'attente d'une quatrième qui alors resterait peut-être éternellement absente, celle de Calas, de la Barre et de Le Surc. Vers les 11 heures du soir, au moment où le roi Charles X tenait son conseil, à l'instant où des centaines d'équipages faisaient résonner le pavé de la rue d'Artois devant l'hôtel de Marande, les abords du palais de justice présentaient un spectacle bien autrement curieux que celui du boulevard des Italiens. En effet, depuis la place du Châtelet, en allant du nord au sud, jusqu'à la place du pont Saint-Michel, le pont au Change, la rue de la Baillerie, le pont Saint-Michel et toutes les rues avoisinantes, et en allant de l'ouest à l'est, depuis la place Dauphine jusqu'au pont de la Cité, les quais de l'Horloge, de Cé, de la Cité, de l'Archevêché et des Orfèvres, était couvert d'une foule si compacte, si pressée, si houleuse et si murmurante, qu'on eût cru que la vieille île du palais devenue flottante oscillait au milieu de la Seine, faisant un suprême effort pour résister à l'ouragan qui la poussait vers la mer. Ce qui contribuait à donner à cette foule une grande ressemblance avec un océan orageux, c'était le mugissement sourd et profond, lugubre et monotone, dont elle faisait retentir toutes les rues d'alentour et qui montait comme une marée furibonde jusqu'aux voûtes du vieux palais de Saint-Louis. C'était ce soir-là, ou plutôt cette nuit-là, car la soirée était déjà assez avancée, que devaient se clore les débats de cette affaire Saranti qui préoccupait, avec tant de raison, à un si haut degré, l'attention publique depuis le jour où le Moniteur avait publié l'acte d'accusation. Les lecteurs ne s'étonneront donc pas qu'un procès destiné à faire époque dans les fastes de la justice criminelle eût attiré autour du palais un si grand concours de populaires, et dans la salle d'audience une foule beaucoup plus considérable que la salle ne le comportait. Pour éviter la confusion, le trouble et, qui sait, les désordres qu'aurait pu occasionner une telle affluence, Monsieur le Président avait jugé nécessaire de faire distribuer à l'avance des cartes d'entrée aux personnes, ou du moins à une partie des personnes qui en avaient sollicité. Les avocats eux-mêmes en avaient reçu un certain nombre pour chacun des jours d'audience. Il avait été impossible de satisfaire aux sollicitations innombrables des uns et des autres. Plus de 10 000 demandes de billets avaient été adressées à M. le Président depuis le jour qu'avait été publié l'acte d'accusation. La diplomatie, les deux législatures, la noblesse, la robe, l'armée et la finance avaient sollicité cette faveur. Peu de ces requêtes avaient été exaucées. Il en résultait que toutes les places étaient à ce point occupées qu'on eût dit les spectateurs soudés les uns aux autres et ne faisant plus qu'un seul corps. Aussi entendait-on de temps en temps, à la porte et dans les couloirs où on s'écrasait, la voix d'un malheureux qu'on étouffait. Non seulement la queue des spectateurs se prolongeait jusqu'au bout de la galerie et obstruait les nombreux escaliers qui aboutissaient aux différentes portes d'entrée, mais encore, ainsi que nous l'avons dit, cet immense fil de spectateurs non privilégiés avait, comme un serpent gigantesque, sa queue à la place du pont Saint-Michel et sa tête à la place du Châtelet. Plusieurs banquettes avaient été spécialement réservées pour le barreau, mais elles avaient été bientôt envahies par un grand nombre de dames qui n'avaient pu trouver place sur les bancs qu'on leur avait préparés dans l'enceinte intérieure vis-à-vis du banc des avocats. Les débats n'étaient ouverts que depuis 2 jours, et bien que jusqu'ici on n'eût aucune preuve du crime dont M. Saranti était accusé, On disait au palais et on répétait dans la foule que le verdict devait être rendu dans la journée. On s'attendait à chaque instant à l'entendre prononcer. Nous parlons du moins de ceux qui n'assistaient que de loin à la séance. Et quoiqu'il fût 11 heures, quoiqu'il circulât dans la foule un bruit, réel ou faux, d'après lequel on venait d'envoyer l'ordre formel que le crime fût jugé et l'arrêt rendu séance tenante, aucune nouvelle n'arrivait au dehors, et les plus patients commençaient à pousser des cris énergiques que n'arrêtaient pas entièrement les gendarmes éparpillés çà et là dans la foule. Pour ceux qui assistaient au débat, l'intérêt au contraire allait croissant, et 13 heures d'audience dans un même jour, la séance avait commencé à 10 heures du matin, 13 heures d'audience n'avaient pas diminué l'attention des uns ni ralenti la curiosité des autres. Du reste, outre l'intérêt qu'excitait l'accusé dans le cœur de chacun, ces débats déjà si palpitants avaient été rendus plus intéressants encore par le talent remarquable avec lequel ils avaient été présidés et en même temps par l'énergie et le bon goût de l'avocat qui défendait M. Saranti. Quant au talent du président, il était incomparable. Impossible d'apporter, dans des fonctions si graves et si pénibles, un esprit d'analyse plus net et plus précis, une élocution plus élégante et plus facile, un sentiment plus élevé des convenances et une plus scrupuleuse impartialité. Car, disons-le en passant, puisque nous en trouvons l'occasion, nous qui nous piquons en toutes choses de cette scrupuleuse impartialité dont nous louons Monsieur le Président de la Cour d'assises, le talent du Président, son habileté et son équité exercent sur la marche des débats et même sur l'attitude du public une influence extraordinaire. On ne saurait croire combien elle leur inspire de grandeur et de dignité et donne aux séances de nos cours de justice ce caractère imposant qui leur est propre. La solennité de ce soir-là avait précisément à la fois le caractère imposant dont nous parlons et un caractère sombre, lugubrement fantastique que l'on comprendra suffisamment quand nous aurons, en quelques mots, fait la mise en scène de cette séance. Tout le monde à peu près connaît la salle d'audience de la cour d'assises de Paris. C'est un immense rectangle, plus long que large, sombre, profond et haut comme une église. Nous disons sombre, bien que cette salle reçoive le jour par 5 immenses fenêtres et 2 portes vitrées placées d'un seul côté de la salle sur la face gauche en entrant. Mais soit que la face de droite, à travers laquelle ne pénètre aucune lumière, excepté quand s'entr'ouvre la petite porte par laquelle entre et sort l'accusé, soit, et disons-nous, que ce mur sombre, qu'essaie en vain d'égayer des panneaux de papier bleu, jette à la muraille qui le regarde de son obscurité, bien plus que celle-ci ne lui envoie sa lumière, ou soit que le temple de la justice se conserve comme un reflet de la boue immonde dont le crime a souillé son pavé, on est pris tout à coup en entrant dans la salle de la cour d'assises d'une tristesse noire, d'un frisson de dégoût, d'une impression analogue à celle qu'on éprouverait si, en entrant dans un bois, on mettait le pied sur un nid de couleuvres. Mais ce soir-là, au lieu de la teinte sombre qu'elle revêt communément, la cour d'assises éclatait de lumière encore plus triste peut-être que son obscurité. Qu'on imagine en effet toute cette foule éclairée étrangement par les lueurs vacillantes de 100 bougies, par le reflet des lampes qui, recouvertes d'abat-jour, donnaient au visage des jurés je ne sais quel air étrange, quelle lugubre pâleur particulière aux inquisiteurs peints par les peintres espagnols. En entrant dans la salle, cette demi-obscurité lumineuse, ou disons mieux cette demi-clarté sombre, vous reportait, malgré vous, aux séances mystérieuses du Conseil des 10 ou de l'Inquisition. Toutes les géhennes et les tortures du Moyen-Âge revenaient à l'esprit, et on cherchait dans le coin le plus ombreux de la salle le masque livide du tourmenteur. Au moment où nous pénétrons dans l'enceinte, monsieur l'avocat du roi se dispose à prononcer son réquisitoire. Il est debout. C'est un homme haut de taille, pâle de visage, osseux et sec comme un vieux parchemin. Un cadavre vivant, n'ayant plus de la vie que la voix et le regard, car de gestes, de mouvements, il n'en est pas question. Encore cette voix est-elle faible comme un souffle? Encore ce regard est-il vague, sans expression arrêtée? Cet homme, pour tout dire, semble l'incarnation de la procédure criminelle. C'est un réquisitoire en chair et en os surtout. Mais avant de faire entendre les personnages principaux de ce drame, disons quelle place ils occupaient dans la salle d'audience. Au fond de la salle, au centre du bureau circulaire, est le président, assisté des juges qui forment la cour. À la gauche de celui qui entre, ou à la droite du président, au-dessous de deux de ces hautes fenêtres vitrées, sont les 14 jurés. Nous disons 14 au lieu de 12, car monsieur l'avocat du roi, attendu la longueur présumée des débats, a requis l'adjonction de 2 jurés supplémentaires et d'un magistrat assesseur. Dans l'enceinte circulaire qui borde le bureau de la cour est l'honnête monsieur Gérard, la partie civile. C'est bien le même homme, à peu près chauve, aux yeux gris, petits, enfoncés, ternes, aux sourcils épais et grisonnants, du milieu desquels s'élançaient, comme des soies de sanglier, droites et roides, de longs poils, qui, se joignant dans la ligne d'un nez recourbé en bec de vautour, formaient, au-dessus de l'œil, une arcade d'une courbe exagérée et hors de toute proportion. C'était enfin cette physionomie lâche et basse qui avait fait une si singulière impression sur l'abbé Dominique à son entrée dans la chambre à coucher du mourant. La figure d'un homme qui demande à la justice de le venger d'un assassin est d'ordinaire, quelle que soit sa laideur coutumière, touchante, intéressante au plus haut point, tandis que la figure de l'accusé excite le mépris et le dégoût. Mais ici, c'était le contraire. Et si l'on eût consulté le public qui composait cette assemblée à l'unanimité, en voyant à droite le beau et honnête visage de M. Saranti, la loyale, sereine et belle figure de l'abbé Dominique, à l'unanimité, le public eût dit que les rôles étaient intervertis, que l'assassin était la victime, et que celui qui passait pour la victime était l'assassin. Sans autre raison, sans autre preuve que l'inspection rapide des deux hommes, il était impossible de s'y tromper. Maintenant qu'on nous aurons dit que M. Saranti, escorté de 2 gendarmes, causait de temps en temps, appuyé sur la barre avec son fils et son avocat, nous aurons fait connaître dans tous ses détails la mise en scène de cette triste solennité. Nous avons annoncé que les débats étaient ouverts depuis 2 jours. La séance à laquelle nous faisons assister le lecteur était donc la 3e et probablement la dernière séance. Disons rapidement ce qui s'était passé dans les 2 premières séances. Après les formalités préliminaires, on avait lu l'acte d'accusation, que nous ne rapporterons pas, mais que les personnes curieuses de ces sortes de pièces pourront retrouver dans les journaux du temps. Il résultait de cet acte que M. Gaetano Saranti, ancien militaire, né à Ajaccio, en Corse, âgé de 48 ans, officier de la Légion d'honneur, était accusé d'avoir, dans la soirée du 20 août 1820, volé avec effraction une somme de 300 000 francs dans le secrétaire de M. Gérard, assassiné une femme au service de M. Gérard et enlevé ou tué les 2 neveux de M. Gérard sans qu'on ait jamais pu retrouver trace de leur personne ou de leur cadavre. Crime prévu par les articles 293, 296, 302, 304, 345 et 354 du Code pénal. Après la lecture de l'acte d'accusation, on avait, dans la forme ordinaire, interrogé l'accusé qui avait répondu « non » à toutes les questions qu'on lui avait faites sans donner d'autres marques d'émotion que la douleur qu'il avait paru éprouver en apprenant la mort ou la disparition des 2 enfants. L'avocat de M. Gérard avait cru embarrasser énormément M. Saranti en lui demandant pourquoi il avait si brusquement quitté la maison où il avait été accueilli avec tant de bienveillance. Mais M. Saranti avait simplement répondu que la conspiration dont il était un des chefs principaux ayant été dénoncé à la police, il avait été, d'après les instructions de l'empereur, rejoindre M. le bâtard de Prémont, général français, au service de Runjet Singh. Puis il avait raconté comment, pour donner suite à son projet, il était, accompagnant le général, rentré en Europe et essayé, de complicité avec lui, d'enlever le roi de Rome du palais de Schönbrunn, tentative qui avait, ainsi qu'il l'avait appris depuis son arrestation, échoué, à son grand regret, avouait-il. Ainsi, tout en repoussant l'accusation de vol et d'assassinat, il sollicitait celle de criminel de lèse-majesté et ne récusait l'échafaud civil que pour réclamer à grands cris l'échafaud politique. Mais ce n'était point là l'affaire de ceux qui le voulaient condamner. Ce que l'on désirait trouver dans M. Sarranti, c'était l'ignoble voleur, l'immonde assassin qui veut s'approprier la fortune ensanglantée de deux malheureux enfants, et non le conspirateur politique qui, au risque de sa vie, veut substituer une dynastie à une autre et changer, à main armée, la forme d'un gouvernement. Le président avait été forcé d'arrêter M. Sarranti au milieu des explications données par lui. Ces explications faisaient passer dans tout l'auditoire un frisson sympathique qui le gagnait, lui, magistrat, comme les autres et malgré lui-même. Puis était venue la déposition de M. Gérard. Nos lecteurs se souviennent de sa première déposition faite devant le maire de Viry le lendemain du drame. La seconde était identiquement la même. Il est donc inutile que nous la rapportions ici, puisque le lecteur la connaît déjà. La fin de la première séance avait été remplie par la déposition des témoins. Cette déposition, tout à la charge de Sarranti, était un long panégyrique de M. Gérard, près duquel, s'il fallait en croire les témoins, Saint-Vincent de Paul n'était qu'un misérable égoïste. Le premier de ces témoins était le maire de Viry. Le lecteur connaît déjà le bonhomme. Dupe du trouble dans lequel était M. Gérard au moment où celui-ci lui annonça la catastrophe, il avait pris la stupeur du criminel pour la terreur de la victime. On avait entendu aussi le témoignage de quatre ou cinq paysans, fermiers et propriétaires de Viry, qui, n'ayant eu avec M. Gérard que des rapports de fermage à l'occasion d'achat ou de vente de terres, déclaraient que dans toutes ces transactions, M. Gérard s'était montré d'une exactitude rigoureuse et d'une rigide probité. On entendit encore 20 ou 25 témoins de Vanvres ou du Bas-Meudon, c'est-à-dire de tous ceux qui avaient reçu de M. Gérard, depuis qu'il habitait parmi eux, de nombreuses marques de sa bienfaisance et de sa générosité. Ceux de nos lecteurs qui se souviennent du chapitre intitulé « Un philanthrope de village » comprendront quel effet dut produire sur le jury le récit des bonnes actions de l'honnête M. Gérard et notamment le récit de la dernière, c'est-à-dire de celle qui avait failli lui coûter la vie. M. Sarranti, interrogé lui-même sur M. Gérard, répondit, avec sa bonne foi toute militaire, qu'il le croyait un parfait honnête homme et qu'il fallait que celui-ci fût trompé par de graves apparences pour porter contre lui, M. Sarranti, une si cruelle accusation. Ce à quoi le président lui avait demandé « Mais enfin, que dites-vous pour votre justification et comment expliquez-vous le vol des 100 000 écus, la mort de Madame Gérard et la disparition des enfants ?»« Les 100 000 écus étaient à moi, » avait répondu M. Sarranti, « ou, pour mieux dire, c'était un dépôt que m'avait confié l'empereur Napoléon. Ils m'ont été rendus de la main même de M. Gérard. » Quant à l'assassinat de Madame Gérard et à la disparition des enfants, je n'en puis rien dire, Madame Gérard étant en parfaite santé et les enfants jouant sur la pelouse au moment où je quittais le château, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Tout cela était si peu probable que le président avait regardé les jurés, lesquels avaient secoué la tête d'un air le plus significatif. Quant à Dominique, son aspect pendant tout le cours des débats était celui d'un homme pris d'une fièvre allant jusqu'au délire. Il se levait, il se rasseyait, tirait son père par le pan de sa redingote, ouvrait la bouche comme s'il voulait parler, et puis tout à coup poussait un gémissement, tirait son mouchoir de sa poche, essuyait son front couvert de sueur, laissait tomber sa tête dans ses deux mains et pendant des heures demeurait comme anéanti. Et quelque chose de pareil, au reste, se passait du côté de M. Gérard, car, préoccupation inexplicable pour les assistants, ce n'était pas Sarranti, c'était bien plutôt Dominique que M. Gérard suivait des yeux. Quand Dominique se levait, il se levait lui-même, comme poussé par un ressort. Quand Dominique ouvrait la bouche pour parler, la sueur coulait sur le front de l'accusateur qui semblait près de s'évanouir. Ces deux pâleurs luttaient ensemble, c'était à celle qui arriverait jusqu'à la lividité. Au milieu de ces scènes mystérieuses, dont les deux acteurs avaient seuls le secret, un incident inattendu vint jeter son cri rauque et discordant dans le concert de louanges qui s'élevait autour de M. Gérard. Un vieillard de 80 ans, pâle, décharné, maigre comme Lazare ressuscité, répondant à l'appel qui lui était fait, s'avança d'un pas lent, mais égal, ferme et sonore, comme celui de la statue du commandeur. C'était ce vieux jardinier de Viry, père et grand-père de tout un monde d'enfants, et qui cultivait les jardins du château depuis 30 ou 40 ans, quand l'événement était arrivé. C'était ce fidèle serviteur dont on se rappelle que Corsola avait demandé le renvoi pour s'assurer de sa puissance de domination sur M. Gérard. « Je ne sais qui a commis l'assassinat, dit-il, mais je sais que la femme assassinée est une méchante femme. Elle s'était emparée de l'esprit de cet homme qui n'était pas son mari et dont elle voulait devenir la femme. » Et il montrait M. Gérard. Elle l'avait fasciné et elle exerçait sur lui un pouvoir qui n'avait pas de bornes. Ma conviction est qu'elle haïssait les enfants et qu'elle pouvait faire de cet homme tout ce qu'elle voulait. « Avez-vous quelque fait à raconter ? » demanda le président. « Non, répondit le vieillard. Seulement tout à l'heure, j'ai entendu parler du caractère de M. Gérard et je crois de mon devoir, moi qui depuis 80 ans ai vu tant d'hommes, de dire ce que je pense de celui-là. » La servante voulait devenir maîtresse. Peut-être les enfants la gênaient-ils pour cela. Je la gênais bien, moi. » Pendant que le vieillard parlait, Dominique semblait triompher, tandis qu'au contraire, M. Gérard était pâle comme un mort. Ses mâchoires tremblantes faisaient claquer ses dents les unes contre les autres. Cette déclaration produisit une profonde émotion dans tout l'auditoire. Le président fut obligé de réclamer le silence, et en renvoyant le vieillard, il dit « Allez, mon ami, messieurs les jurés tiendront compte de votre déposition. » L'avocat de M. Gérard objecta alors qu'on avait voulu renvoyer le jardinier dont les services, à cause de son grand âge, étaient devenus à peu près inutiles, et qu'en ce moment c'était Orsola que cet homme avait l'ingratitude d'attaquer qui avait sollicité sa grâce. Lui qui regagnait son banc, appuyé d'une main contre son bâton, de l'autre au bras d'un de ses fils, lui s'arrêta court, comme si, marchant dans les grandes herbes du parc, une vipère l'eût mordu au talon. Puis il revint sur ses pas, et d'une voix ferme, « Ce que monsieur vient de dire, reprit-il, est, moins l'ingratitude dont il m'accuse, la pure vérité. » Orsola avait d'abord demandé mon renvoi et M. Gérard le lui avait accordé. Puis elle lui a demandé ma grâce et M. Gérard la lui a accordée encore. Et la servante voulait essayer son pouvoir sur le maître, peut-être pour s'assurer de ce qu'elle en pourrait faire dans une circonstance plus importante. Demandez à M. Gérard si c'est vrai. « Ce que dit cet homme est-il vrai, monsieur ? » demanda le président s'adressant à M. Gérard. Gérard allait répondre que c'était faux, mais ayant levé la tête, il rencontra les deux yeux du jardinier qui cherchait les siens. Ébloui par eux comme par les éclairs de sa conscience, il n'eut pas le courage de nier. « C'est vrai, balbutia-t-il. » Excepté cet incident, tous les témoignages, ainsi que nous l'avons dit, furent en faveur de M. Gérard. Quant au témoignage en faveur de M. Saranti, l'accusé n'en avait pas sollicité un seul. Il se croyait accusé de conspiration bonapartiste et, comptant en assumer sur lui toute la responsabilité, il n'avait pas cru avoir besoin de témoins à décharge. Puis l'accusation avait tourné comme sur un pivot et M. Saranti s'était trouvé en face d'un vol, d'un double rapt et d'un assassinat. L'allégation alors lui avait paru tellement insensée qu'il s'en était remis à l'instruction elle-même de faire reconnaître son innocence. Ce n'était que trop tard qu'il s'était aperçu du piège dans lequel il était tombé, et sur ce fait de vol, de rapt et d'assassinat, il lui avait répugné d'appeler aucun témoignage. À son avis, sa dénégation devait suffire. Mais peu à peu, par cette brèche qu'il avait laissée ouverte, était entré le soupçon, puis la probabilité, puis, sinon dans l'esprit du public, du moins dans celui des jurés, une presque certitude. M. Sarranti était comme un homme emporté par une course trop rapide vers un abîme inconnu. Il voyait l'abîme, il le mesurait, mais il était trop tard. Aucun appui ne se présentait auquel il pût se retenir. Il ne pouvait manquer d'être précipité. L'abîme était profond, effroyable, hideux. Il devait y perdre non seulement la vie, mais encore l'honneur. Et cependant, Dominique lui disait incessamment en tout bas, « Ayez courage, mon père, je sais, moi, que vous êtes innocent. » On en était arrivé à ce point des débats où, l'affaire étant suffisamment éclaircie par l'audition des témoins, la discussion légale appartient aux avocats. L'avocat de la partie civile prit la parole. « Je ne sais si, lorsque la législation décida que les parties, au lieu de plaider elles-mêmes, plaideraient par l'organe d'un tiers, elle vit, comprit, devina, à côté des avantages qu'elle trouvait à l'accusation ou à la défense par procuration, je ne sais si elle vit, comprit, devina, à quel degré de mauvaise foi, d'impudence et de subtilité elle allait contraindre l'homme à descendre. Aussi y a-t-il au palais les avocats des mauvaises causes. Ces hommes savent parfaitement que la cause qu'ils défendent est mauvaise, mais regardez-les, écoutez-les, étudiez-les. À leur voix, à leur geste, à leur accent, ne les diriez-vous pas convaincus? Or, quel est le but de cette fausse conviction qu'ils affectent? J'écarte complètement la question d'argent, de rémunération, de salaire. Quel est le but de cette fausse conviction qu'ils affectent et qu'ils veulent faire partager aux autres? N'est-ce pas de sauver un coupable et de faire condamner un innocent? La loi, au lieu de protéger cet étrange détournement de la conscience humaine, ne devrait-elle pas le punir? Peut-être me dira-t-on qu'il en est de l'avocat comme du médecin. Le médecin est appelé pour soigner un assassin qui, dans l'exercice de ses fonctions, a reçu un coup de couteau ou une balle de pistolet. Pour rappeler à la vie un condamné qui, après sa condamnation, à la suite d'un crime bien avéré, a tenté de se suicider. Le médecin arrive et trouve le blessé, presque à l'état de cadavre. Il n'y a qu'à laisser faire la blessure, elle conduira tout doucement et d'elle-même l'homme à la mort. Le médecin croit avoir reçu une mission complètement opposée. Le médecin est le champion de la vie, l'adversaire de la mort. Partout où il trouve la vie, il la soutient. Partout où il trouve la mort, il la combat. Il arrive au moment où la vie de l'assassin, ou du moins du condamné, expire, où la mort étend la main pour s'emparer du condamné ou de l'assassin. Quel que soit le mourant, le médecin est son second. Il jette le gant de la science à la mort et lui dit « à nous deux ». À partir de ce moment, la lutte entre le médecin et la mort commence. Pas à pas, la mort recule devant le médecin. Elle finit par sortir du cirque. Le médecin reste maître du champ de bataille. Le condamné qui a voulu se suicider, l'assassin qui a reçu une blessure, sont sauvés. Oui, mais sauvés pour être remis aux mains de la justice humaine qui alors opère sur eux son œuvre de destruction comme le médecin a opéré son œuvre de salut. Il en est ainsi, dira-t-on, de l'avocat. On lui donne un coupable, c'est-à-dire un homme gravement blessé, il en fait un innocent, c'est-à-dire un homme qui se porte bien. Celui qui me fait cette réponse n'oublie qu'une chose, c'est que le médecin ne prend à personne la vie qu'il rend au malade, tandis que l'avocat prend parfois à l'innocent la vie qu'il rend au coupable. Il en était ainsi dans la circonstance terrible où en face l'un de l'autre étaient placés M. Gérard et M. Sarranti. Peut-être l'avocat de M. Gérard croyait-il à l'innocence de M. Gérard, mais à coup sûr il ne croyait pas à la culpabilité de M. Sarranti. Cela n'empêcha point cet homme de faire croire aux autres ce que lui-même ne croyait pas. Il avait ramassé dans un exorde emphatique tous les lieux communs oratoires, toutes les phrases banales qui traînaient dans les journaux du temps contre les bonapartistes. Il avait fait un parallèle entre le roi Charles X et l'usurpateur. Enfin, il avait servi aux jurés tous ces hors-d'œuvre qui devaient aiguiser leur appétit à l'endroit de la pièce principale. La pièce principale, c'était Monsieur Saranti, c'est-à-dire l'un de ces scélérats dont la création a horreur, un de ces monstres que la société repousse, un de ces criminels capables des plus noirs attentats et dont la mort est réclamée comme un exemple par leurs contemporains indignés de respirer le même air qu'eux. Il avait donc, sans prononcer le mot terrible, conclu à la peine de mort. Mais en même temps, il faut le dire, il avait repris sa place au milieu d'un silence glacial. Ce silence de l'auditoire, réprobation évidente de la masse, dut laisser dans le cœur de l'avocat de l'honnête M. Gérard un douloureux sentiment de rage et de honte. Nul front ne lui sourit, nulle bouche ne le félicita, nulle main ne s'étendit vers sa main, et le plaidoyer achevé, le vide s'était fait autour de lui. Il essuya son front baigné de sueur et attendit anxieusement le plaidoyer de son adversaire. Celui qui plaidait pour M. Saranti était un jeune avocat appartenant au Parti républicain. Il avait, depuis un an à peine, débuté dans la carrière du barreau, et son début avait brillé du plus vif éclat. C'était le fils d'un de nos savants les plus illustres, il se nommait Emmanuel Richard. M. Saranti avait été lié avec son père. Le jeune homme, au nom de son père, était venu s'offrir, M. Saranti avait accepté. Le jeune homme se leva, déposa sa toque sur le banc, rejeta en arrière ses grands cheveux noirs et, pâle d'émotion, commença. « Messieurs, dit-il en regardant les jurés en face, ne soyez point étonnés que mon premier mot soit un cri d'indignation et de douleur. Depuis le moment où j'ai vu poindre la monstrueuse accusation, qui n'aboutira, je l'espère, qu'à un avortement, et à laquelle en tout cas M. Saranti me défend de répondre, je me contiens à grand-peine, et mon cœur, blessé, saigne et gémit profondément en dedans de moi-même. J'assiste en effet à une chose terrible. Un homme honorable et honoré, un vieux soldat dont le sang a coulé sur tous nos champs de bataille pour celui qui était à la fois son compatriote, son maître et son ami, un homme dont jamais une pensée mauvaise n'a souillé le cœur, dont jamais une action honteuse n'a taché la main, cet homme, venu ici le front haut, afin de répondre à une de ces accusations qui parfois sont une gloire pour ceux qu'elles atteignent, cet homme qui vient vous dire « J'ai joué ma tête à ce grand jeu des conspirations qui renverse les trônes, change les dynasties, bouleverse les empires, j'ai perdu, prenez-la ». Cet homme s'entend dire « Taisez-vous, vous n'êtes point un conspirateur, vous êtes un voleur, vous êtes un ravisseur, vous êtes un assassin ». Ah, messieurs, il faut être bien fort, vous en conviendrez, pour rester la tête haute devant cette triple accusation. Et en effet, nous sommes forts, car à cette triple accusation, nous répondrons purement et simplement ceci. Si nous étions ce que vous dites, l'homme aux yeux d'aigle et au regard de flamme, qui savait si bien lire dans les cœurs, ne nous aurait pas serré la main, ne nous aurait pas appelé son ami, ne nous aurait pas dit « va ». Pardon, maître Emmanuel Richard, dit le président, mais de quel homme parlez-vous donc ainsi? Je parle de Sa Majesté Napoléon Ier, sacré en 1804 à Paris, empereur des Français, couronné en 1805 à Milan, roi d'Italie, et mort prisonnier à Sainte-Hélène le 5 mai 1821, répondit à haute et intelligible voix le jeune avocat. Il est impossible de dire quel frisson étrange courut dans l'assemblée. À cette époque, on appelait Napoléon l'usurpateur, le tyran, l'ogre de Corse. Et depuis 13 ans, c'est-à-dire depuis le jour de sa chute, personne, à coup sûr, n'avait prononcé tout haut, en face de son meilleur et de son plus intime ami, ce qu'Emmanuel Baudard venait de prononcer en face de la cour, des jurés et de l'auditoire. Les gendarmes qui étaient assis à la droite et à la gauche de M. Saranti se levèrent et interrogèrent des yeux et du geste le président pour savoir ce qu'il y avait à faire et s'il ne devait pas, séance tenante, mettre la main sur l'audacieux avocat. L'excès de son audace même le sauva. Le tribunal resta atterré. M. Saranti saisit la main du jeune homme. « Assez, lui dit-il, assez, au nom de votre père, ne vous compromettez pas. » « Au nom de mon père et du mien, continuez !» s'écria Dominique. Vous avez vu, messieurs, continua Emmanuel, des procès dans lesquels les accusés venaient démentir les témoins, dénier des preuves évidentes, chicaner leur vie au procureur du roi. Vous avez vu cela quelquefois, souvent, presque toujours. Eh bien, nous, messieurs, nous vous réservons un spectacle plus curieux. Nous venons vous dire, oui, nous sommes coupables, et en voilà les preuves. Oui, nous avons conspiré contre la sûreté intérieure de l'État, et en voici les preuves. Oui, nous avons voulu changer la forme du gouvernement, et en voilà les preuves. Oui, nous avons tramé un complot contre le roi et sa famille, et en voilà les preuves. Oui, nous sommes criminels de lèse-majesté, et en voilà la preuve. Oui, oui, nous avons mérité la peine des parricides, et en voilà la preuve. Oui, nous demandons à marcher à l'échafaud, les pieds nus et le voile noir sur la tête, comme c'est notre droit, comme c'est notre désir, comme c'est notre vœu. Un cri de terreur s'échappa de toutes les bouches. « Taisez-vous, taisez-vous » cria-t-on de tous côtés au jeune fanatique. « Vous le perdez !»« Parlez, parlez !» s'écria Sarenti. « C'est comme cela que je veux être défendu !» Des applaudissements éclatèrent sur tous les points de l'auditoire. « Gendarmes, faites évacuer la salle !» cria le président. Puis, se tournant vers l'avocat, « Maître Emmanuel Richard, dit-il, je vous ôte la parole. » « Peu importe à cette heure, répondit l'avocat, j'ai rempli le mandat qui m'avait été confié, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. » Puis, se retournant vers M. Sarenti, « Êtes-vous content, monsieur, et sont-ce bien vos propres paroles que j'ai répétées ?» Pour toute réponse, M. Sarenti se jeta dans les bras de son défenseur. Les gendarmes se mirent en mesure d'exécuter l'ordre du président, mais un tel rugissement courut à l'instant même dans la multitude que le président comprit qu'il entreprenait une œuvre non seulement difficile mais encore dangereuse. Une émeute pouvait éclater et, pendant le tumulte, M. Sarenti pouvait être enlevé. Un des juges se pencha et prononça tout bas quelques mots à l'oreille du président. « Gendarme, dit celui-ci, reprenez vos places. La cour en appelle à la dignité de l'auditoire. »« Silence, dit une voix au milieu de la foule. » Et comme si la foule était habituée à obéir à cette voix, elle se tut. Dès lors, la question était nettement posée. D'un côté, la conspiration, réfugiée dans sa foi impériale, dans la religion de son serment, se faisant non pas un bouclier, mais une palme de son crime lui-même. De l'autre, le ministère public, décidé à poursuivre dans M. Sarenti, non le criminel de haute trahison, le coupable de lèse-majesté, mais le voleur de 100 000 écus, le ravisseur des enfants, l'assassin d'Orsola. Se défendre de ces accusations, c'était les admettre. Les repousser, pas à pas, une à une, c'était admettre leur existence. Emmanuel Richard, par ordre de M. Sarenti, n'avait donc pas même fait face un seul instant à la triple accusation que poursuivait l'avocat du roi. Il laissait le public juge de cette singulière position d'un accusé avouant un crime qu'on ne voulait pas lui faire avouer et qui entraînait, non pas un allègement, mais une aggravation de peine pour celui dont il était accusé. Aussi, dans le public, le jugement était-il prononcé. En toute autre circonstance, après le plaidoyer de l'avocat de l'accusé, sans doute la séance eût-elle été suspendue, afin de donner un instant de repos au juge et au juré. Mais, après ce qui venait de se passer dans l'auditoire, toute halte sur la pente que l'on descendait était dangereuse, et le ministère public pensa que mieux valait en finir, dût-on finir, au milieu d'une tempête. Monsieur l'avocat du roi se leva donc, et au milieu de ce profond silence qui s'étend sur la mer, entre deux bourrasques, il prit la parole. Dès les premiers mots, tout l'éditoire comprit que l'on était retombé des hauteurs poétiques et fulgurantes d'un Sinaï politique dans les bas-fonds de la chicane criminelle. Comme si la terrible sortie de l'avocat de M. Sarenti n'avait pas eu lieu, comme si ce titan à moitié foudroyé ne venait pas de faire chanceler sur son trône le Jupiter des Tuileries, comme si le regard n'était pas encore ébloui de ces éclairs que l'aigle impérial, en passant au plus haut de l'éther, venait de faire flamboyer sur la foule, monsieur l'avocat du roi s'exprima ainsi. Messieurs, depuis quelques mois, plusieurs crimes ont fixé l'attention publique, en même temps qu'ils excitaient l'active sollicitude et la surveillance des magistrats. prenant leur source dans l'agglomération d'une population toujours croissante, peut-être aussi dans la suspension de quelques travaux ou dans la cherté des subsistances, ces crimes n'étaient certainement pas plus nombreux que ceux dont nous avons à gémir d'ordinaire et qui sont le tribut crétois que la société paie chaque année aux vices et à l'oisiveté et qui veulent, comme le Minotaure antique, un certain nombre de victimes. Il était évident que le procureur du roi tenait dans son estime cette période à effet, car il fit une pause et jeta un regard circulaire sur cette mer, d'autant plus agitée dans ses abîmes peut-être qu'elle était muette à sa surface. Le public resta impassible. Cependant, messieurs, continua le procureur du roi, l'audace de plusieurs coupables s'était ouvert une nouvelle carrière dans laquelle on était moins habitué à la rencontrer et à la poursuivre, et elle inquiétait davantage par la nouveauté et la hardiesse de ses attentats. Mais je le dis avec joie, messieurs, le mal dont nous avons à gémir n'est pas si grand qu'on veuille le croire. On sait plus seulement à l'exagérer. 1000 bruits mensongers ont été répandus à dessein. La malveillance les créait elle-même. À peine créée par elle, on les accueillait avidement, et chaque jour le récit des prétendus crimes de la nuit portait l'effroi dans les âmes simples, la stupeur dans les esprits crédules. L'auditoire se regardait, ignorant où le procureur du roi voulait en venir. Seuls les habitués de la cour d'assises, ceux qui viennent chercher là ce qui leur manque chez eux l'hiver, c'est-à-dire une atmosphère attiédie et un spectacle qui cesse pour eux d'être nouveau et émouvant à cause de l'habitude, mais qui, à cause de l'habitude même, leur est nécessaire, ces habitués-là seuls, accoutumés aux phraséologies de messieurs Bérard et de Merchangy, ne s'inquiétait pas du chemin dans lequel s'engageait le procureur du roi, sachant que, de même qu'on dit en style populaire « tout chemin conduit à Rome », on peut, sous certains gouvernements et dans certaines époques, dire en style de palais « tout chemin conduit à la peine de mort ». N'était-ce pas par ce chemin-là qu'on avait conduit Didier à Grenoble, Plaigny, Cotron et Carbonneau à Paris, Berton à Saumur, Raoult, Bory, Goubin et Pommier à La Rochelle? Le procureur du roi reprit avec un geste de majestueuse et suprême protection. « Rassurez-vous, messieurs, la police judiciaire a les 100 yeux d'Argus. Elle veillait, elle est allée chercher les cacus modernes dans leurs retraites les plus cachées, dans leurs antres les plus profonds. Car rien n'est impénétrable pour elle, et les magistrats répondaient aux clameurs mensongères qui circulaient en faisant leur devoir plus rigoureusement que jamais. Or, nous sommes loin de le nier, de grands crimes ont été commis, et, organe inflexible de la loi, nous avons nous-mêmes requis contre ces crimes les différentes peines qu'ils avaient encourues. Car nul, messieurs, soyez-en bien convaincus, n'échappe au glaive vengeur de la loi. Que dès à présent la société se rassure donc, ces plus audacieux perturbateurs sont déjà entre les mains de la justice, et ceux qu'elle ne tient pas encore ne tarderont pas à trouver devant elle la peine de leurs attentats. Mais ceux qui cachaient aux environs du canal Saint-Martin avaient pris ces abords déserts pour le théâtre de leurs attaques nocturnes, jetés à cette heure dans les cachots, tentent vainement de repousser les preuves que l'instruction a rassemblées contre eux. Le sieur Ferrantes, un Espagnol, le sieur Aristolos, un Grec, le sieur Walter, un Bavarois, le sieur Cocria, un Auvergnat, ont été arrêtés avant-hier au soir dans l'obscurité de la nuit. Aucune trace ne révélait leur présence cependant, mais il n'est point d'abri qui ait pu les protéger contre les yeux vigilants de la justice, et la force de la vérité a déjà arraché des aveux à ces consciences effrayées. Les auditeurs continuaient de se regarder, se demandant tout bas ce que le sieur Ferrantes, le sieur Aristolos, le sieur Walter et le sieur Cocuria avaient de commun avec M. Saranti. Mais les habitués continuaient, eux, de secouer la tête d'un air de confiance qui signifiait « Vous allez voir, vous allez voir ». Le procureur du roi reprit. 3 forfaits partis de mains plus criminelles encore sont venus exciter l'horreur et l'indignation publique. Un cadavre a été trouvé près de la Briche. C'était celui d'un malheureux soldat qui venait d'obtenir son congé. Dans le même temps, un pauvre ouvrier est tombé sous des coups meurtriers dans les champs de la Villette. Enfin, un charretier de Poissy était tué quelques jours après sur la grande route de Paris à Saint-Germain. En peu de temps, messieurs, le bras de la justice a atteint les auteurs de ces derniers attentats aux extrémités de la France. Mais on ne s'est pas borné à ces récits, on a raconté 100 autres crimes. On a parlé d'un malheureux succombant rue Charles X sous les coups des assassins. Un cocher avait été, disait-on, trouvé baigné dans son sang derrière le Luxembourg. Un attentat odieux avait été commis sur une malheureuse femme rue du Cadran. Une voiture des postes royales aurait été dévalisée à main armée il y a 2 jours par le trop célèbre gibassier, dont le nom, plus d'une fois prononcé dans cette enceinte, est certainement venu jusqu'à vous. Eh bien, messieurs, tandis que l'on s'efforçait d'alarmer ainsi les citoyens, la police judiciaire constatait que le malheureux trouvé rue Charles X était mort d'un épanchement de sang dans les poumons, que le cocher avait été frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante en s'emportant contre ses chevaux, et que cette malheureuse femme, sur laquelle on appelait un si touchant intérêt, était victime purement et simplement d'une de ces scènes tumultueuses que provoque la débauche. Quant au trop célèbre gibassier, messieurs, je vais, en vous donnant une preuve non équivoque qu'il n'avait pas commis le crime qu'on lui impute, vous offrir la mesure de la confiance que vous pouvez avoir dans ces calomnieuses inventions. En entendant dire que gibassier avait arrêté la malle entre Angoulême et Poitiers, j'ai fait venir M. Jacal. M. Jacal m'a affirmé que le nommé gibassier était à Toulon, où il subissait son temps sous le numéro 171, et où son repentir donnait un tel exemple qu'on était en train, en ce moment, de solliciter de Sa Majesté Charles X la remise des 7 ou 8 ans de bagne qui lui restent encore à faire. Par cet exemple incroyable et qui me dispense d'en choisir d'autres, jugez du reste, messieurs, et voyez par quel grossier mensonge on entretient la curiosité, disons mieux, la malveillance publique. Gémissons, messieurs, de voir ces bruits circuler, et que les mots dont on s'est plaint retombent en quelque sorte sur ceux qui les ont propagés. La paix publique a été troublée, dit-on. On se renferme chez soi en tremblant dès que la nuit est venue. Les étrangers ont fui une ville désolée par les crimes. Le commerce est ruiné, perdu, anéanti. Messieurs, que diriez-vous si l'esprit de malveillance de ces hommes, qui cachent leurs opinions bonapartistes ou républicaines sous le titre de libéraux, avait seul provoqué ces malheurs par des calomnies? Vous seriez indignés, n'est-ce pas? Mais un autre mal a été enfanté par le désastreux manège de ces mêmes hommes qui menacent la société en ayant l'air de la prendre sous leur protection, en annonçant chaque jour des forfaits impunis, en répétant que des magistrats inattentifs laissent le crime jouir tranquillement de l'impunité. C'est ainsi qu'un Saranti, sur le sort duquel vous avez à prononcer à cette heure, a pu se flatter, depuis 7 années, d'être à jamais à l'abri des poursuites de la justice. Messieurs, la justice est boiteuse, elle arrive à pas lent, dit Horace, soit, mais elle arrive infailliblement. Ainsi, un homme, c'est du criminel que vous avez sous les yeux que je parle, un homme commet un triple crime, de vol, de rapt, d'assassinat. L'attentat commis, il quitte la ville qu'il habite, il quitte le pays qu'il a vu naître, quitte l'Europe, il traverse les mers, il s'enfuit au bout du monde et va demander à un autre continent, à un de ses royaumes perdus au cœur de l'Inde, de le recevoir comme un hôte royal. Mais cet autre continent le rejette, ce royaume le rejette, et l'Inde lui dit « Que viens-tu faire parmi mes fils innocents, toi coupable? Éloigne-toi d'ici, va-t'en, arrière démon, rétro, Satanas !» Quelques éclats de rire contenus jusque-là se firent entendre tout à coup au grand scandale de messieurs les jurés. Quant à l'avocat du roi, soit qu'il ne comprît pas l'hilarité de la foule, soit qu'au contraire, la comprenant, il voulut la refouler et la tourner à son profit, il s'écria « Messieurs, le frémissement de l'auditoire est significatif. C'est un blâme méprisant jeté par la foule au criminel, et la condamnation la plus sévère ne sera pas plus cruelle pour lui que ce sourire de dédain. » Quelques murmures accueillirent ce détournement de l'opinion de l'auditoire. « Messieurs, dit le président en s'adressant à l'auditoire, rappelez-vous que le silence est le premier devoir du public. » Le public, qui avait le plus grand respect pour la voix impartiale du président, tint compte de son admonestation et le silence se rétablit. Monsieur Saranti, le sourire sur les lèvres, le front haut et calme, tenait sa main dans celle du beau moine, et quant à celui-ci, pieusement incliné déjà sous l'arrêt que son père ne pouvait éviter, il rappelait vaguement ces saints Sébastien dont les peintres espagnols nous ont légué le type, et qui, le corps percé de flèches, respire la plus sublime mansuétude, la plus angélique résignation. Nous ne suivrons pas plus loin l'avocat du roi dans son plaidoyer. Nous dirons seulement qu'une fois le sujet abordé, il retraça, le plus longuement qu'il put, les charges résultant des accusations des témoins de M. Gérard, épuisant toutes les ressources banales, toutes les fleurs classiques de la rhétorique du palais. Enfin, il termina son plaidoyer en requérant l'application des articles 293, 296, 302 et 304 du Code pénal. Un murmure de douleur et un frisson d'effroi courut par toute la foule. L'émotion était à son comble. Le président demanda à M. Saranti « Pas même que je suis innocent tant je méprise l'accusation portée contre moi, » répondit M. Saranti. « Et vous, maître Emmanuel Richard, avez-vous quelque chose à dire en faveur de votre client ?»« Non, monsieur, » répondit l'avocat. « Alors les débats sont fermés, » dit le président. Il y eut dans tout l'auditoire un immense mouvement d'intérêt suivi d'un profond silence. Le résumé du président séparait seul l'accusé de la sentence. Il était 4 heures du matin. On comprenait que ce résumé serait court, et à la manière dont l'honorable président avait conduit les débats, on comprenait qu'il serait impartial. Aussi, dès qu'il ouvrit la bouche, les huissiers n'eurent pas besoin d'imposer le silence à la multitude. La multitude fit silence d'elle-même. « Messieurs les jurés, dit le président d'une voix dont il n'avait pu bannir l'émotion, je viens de clore des débats dont la longueur est à la fois pénible pour votre cœur, fatigante pour votre esprit car il dure depuis plus de 60 heures, pénible pour votre cœur car qui ne serait ému en voyant comme partie plaignante un vieillard, modèle de vertu et de charité, l'honneur de ses concitoyens, et en face de lui, accusé par lui d'un triple crime, un homme que son éducation appelait à parcourir une carrière honorable et même brillante, et qui proteste par sa voix et par celle d'un digne religieux, son fils, contre la triple accusation dont il est l'objet. » Vous êtes encore, comme moi, messieurs les jurés, sous l'impression des plaidoiries que vous venez d'entendre. Il faut donc nous faire violence, descendre au fond de nous-mêmes, nous recueillir avec calme dans ce moment solennel et reprendre avec sang-froid l'ensemble de ces longs débats. Cet exorde causa une émotion profonde dans l'âme des spectateurs, et la foule, muette et haletante, suivit avec une fervente attention l'analyse du président. Après avoir passé en revue avec une consciencieuse fidélité tous les moyens de l'accusation et avoir fait ressortir ce que le défaut de défense avait de désavantageux pour l'accusé, l'honorable magistrat termina son discours en ces termes. « Je viens d'exposer devant vous, messieurs les jurés, aussi consciencieusement et aussi rapidement qu'il m'a été possible, l'ensemble de la cause. C'est à vous maintenant, c'est à votre haute sagacité, c'est à votre sagesse suprême de discerner le juste d'avec l'injuste et de décider. » Pendant que vous accomplirez cet examen, vous serez ébranlé à tout instant par ces profondes et violentes émotions qui viennent assaillir le cœur de l'honnête homme au moment où il va porter un jugement sur son semblable et proclamer une terrible vérité. mais ni la lumière ni le courage ne vous manqueront, et quel que soit votre jugement, il émanera de la justice souveraine, surtout si vous prenez pour guide, le seul guide infaillible, la conscience. C'est dans la foi de cette conscience contre laquelle viennent se briser toutes les passions, car elle est sourde aux paroles, sourde à l'amitié, sourde à la haine, que la loi vous investit de vos redoutables fonctions, que la société vous remet ses pleins pouvoirs et vous charge de ses plus graves et de ses plus chers intérêts. Que les familles, confiantes en vous comme en Dieu même, viennent se placer sous votre protection, et que les accusés, enfin, qui ont le sentiment de leur innocence, vous remettent entre les mains leur vie en toute sécurité et vous acceptent sans trembler pour juge. Ce résumé, net, précis et court, empreint du premier au dernier mot de la plus scrupuleuse impartialité, fut constamment écouté dans le plus religieux silence. À peine le président avait-il cessé de parler que tout l'auditoire se levait spontanément comme un seul homme et donnait les plus vives marques d'approbation auxquelles se mêlaient les applaudissements des avocats. M. Gérard avait écouté le président avec la pâleur de l'angoisse sur le front. Il sentait que dans l'âme de cet homme juste qui venait de parler était non pas l'accusation, mais le doute. Il était 4 heures à peu près quand le jury se retira dans la salle des délibérations. On emmena l'accusé, et, fait inouï dans les fastes judiciaires, pas une des personnes présentes depuis le matin ne songea à quitter sa place quelque temps que dût se prolonger la délibération. Ce fut donc à partir de ce moment dans la salle un colloque immense et des plus animés qui s'établit sur les diverses circonstances des débats et en même temps qu'une horrible anxiété s'emparait de tous les cœurs. M. Gérard avait demandé s'il pouvait se retirer. Sa force avait été jusqu'à entendre requérir la peine de mort, mais elle n'allait pas jusqu'à l'entendre prononcer. Il se leva pour sortir. La foule, nous l'avons dit, était bien pressée, et cependant il se fit à l'instant même un passage sur sa route. Chacun s'écartait comme pour faire place à quelque animal immonde ou venimeux. Le plus déguenillé, le plus pauvre, le plus sale des auditeurs se fut cru souillé par le contact de cet homme. Vers 4h30, un coup de sonnette se fit entendre. Un frisson partit de l'intérieur de la salle au tintement de cette sonnette se communiqua au dehors. Aussitôt, comme une marée qui monte, le flot revint battre la salle et chacun s'empressa de se rasseoir. Mais c'était une émotion vaine. Le chef du jury faisait demander une pièce de procédure. Cependant, les premiers rayons d'un jour pâle et gris filtraient à travers les fenêtres et commençaient à effacer la lumière des bougies et des lampes. C'était l'heure où les plus robustes organisations sentent la fatigue. C'était l'heure où les plus joyeux esprits comprennent la tristesse. C'était l'heure où l'on a froid. Vers 6 heures, un nouveau coup de sonnette se fit entendre. Cette fois, il ne pouvait plus y avoir de méprise. C'était bien le verdict de grâce ou d'arrêt de mort qui allait être prononcé après 2 heures de délibération. Un mouvement électrique se communiqua à toute l'assemblée dont on vit, pour ainsi dire, le frissonnement à la surface. Le silence se rétablit, comme par enchantement, dans cet auditoire si bruyant et si agité une seconde auparavant. La porte de communication entre la salle d'audience et la salle des délibérations s'ouvrit, les membres du jury parurent, et chacun s'efforça de lire à l'avance sur leur visage l'arrêt qui allait être prononcé. Les traits de quelques-uns d'entre eux annonçaient la plus vive émotion. La cour entra quelques minutes après. Le chef du jury s'avança, et la main sur la poitrine, mais d'une voix faible, il commença la lecture du verdict. 5 questions avaient été soumises au jury. Elles étaient ainsi conçues. 1. Monsieur Saranti est-il coupable d'avoir, avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'Orsola? 2. Ce crime a-t-il été précédé par d'autres crimes ci-après spécifiés? 3. A-t-il eu pour objet de préparer ou de faciliter l'exécution de ces crimes? 4. Monsieur Saranti a-t-il, dans la journée du 19 ou dans la nuit du 19 au 20 août, commis un vol avec effraction dans l'appartement de M. Gérard? 5. A-t-il fait disparaître les deux neveux du dit Gérard? Il se fit une pause d'un instant. Aucune plume ne saurait rendre l'anxiété suprême de ce moment rapide comme la pensée, et qui cependant dut paraître un siècle à l'abbé Dominique resté avec l'avocat près du banc vide de l'accusé. Le chef du jury prononça les paroles suivantes. « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est... Oui, à la majorité, sur toutes les questions, l'accusé est coupable. » Tous les yeux s'étaient fixés sur Dominique, il était debout comme les autres. À travers la grise atmosphère du matin, on vit sa pâleur se changer en lividité. Il ferma les yeux et se retint à la balustrade pour ne pas tomber. L'auditoire tout entier étouffa un soupir de douleur. L'ordre fut donné de ramener l'accusé. Tous les yeux se tournèrent alors vers la petite porte. M. Saranti reparut. Dominique lui tendit la main en disant ces seuls mots « Mon père ». Mais lui écouta le verdict de mort comme il avait écouté l'acte d'accusation sans donner aucun signe d'émotion. Dominique, moins impassible, poussa une espèce de gémissement, regarda d'un œil ardent la place qu'avait occupée Gérard, tira d'un mouvement convulsif un rouleau de papier de sa poitrine, puis, avec un effort suprême, repoussa ce rouleau dans sa robe. Pendant le court instant, qui contenait tant de sensations différentes, monsieur l'avocat général, d'une voix plus altérée et qu'on eût dû s'y attendre de la part d'un homme qui venait de provoquer cet arrêt rigoureux, requit contre monsieur Saranti l'application des articles 293, 296, 302 et 304 du Code pénal. La cour entra en délibération. Le bruit se répandit alors dans la salle que si M. Saranti avait tardé de quelques secondes à reparaître, c'est que, tandis qu'on élaborait son arrêt de mort, il s'était profondément endormi. En même temps, on disait que le verdict de la culpabilité n'avait été rendu qu'à la stricte majorité. Après 5 minutes de délibération, la cour se rassit et le président prononça avec émotion et d'une voix étouffée l'arrêt qui condamnait M. Saranti à la peine de mort. Puis, se retournant vers M. Saranti, qu'il avait écouté, calme et impassible, « Accusé Saranti, dit-il, vous avez 3 jours pour vous pourvoir en cassation. » Saranti s'inclina. « Merci, monsieur le président, dit-il, mais mon intention n'est pas de me pourvoir. » Dominique sembla, par ces mots, tirer violemment de sa stupeur. Ah, « Si, si, messieurs, s'écria-t-il, mon père se pourvoira, car il est innocent. » « Monsieur, dit le président, la loi défend de prononcer de pareilles paroles lorsque l'arrêt est rendu. » « À l'avocat de l'accusé, monsieur le président, s'écria Emmanuel, mais non pas à son fils. Malheur au fils qui ne croit pas à l'innocence de son père. » Le président semblait près de défaillir. « Monsieur, dit-il à Saranti, lui donnant ce titre contre toutes les habitudes, avez-vous quelque demande à faire à la cour ?»« Je demande à voir librement mon fils, qui ne refusera pas, je l'espère, de m'assister comme prêtre sur l'échafaud. » « Oh, mon père !» s'écria Dominique, « vous n'y montrez pas, je vous le jure. » Et puis à voix basse, il ajouta, « Et si quelqu'un y monte, ce sera moi. »